Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral, nous retrouvons Louis Albran. Bonjour Louis.
Bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'une institution qui a duré de très nombreuses années, de l'an 500 jusqu'à la Révolution. Je veux parler des princes-archevêques d'Embrun. Princes, car ils deviennent très vite, des années 700, princes de l'Empire romain germanique. Parmi eux, il en est un qui a laissé son nom à un square à Embrun, Jacques Gélu, 1427-1432. Nous sommes au XVe siècle, l'époque de 1482. Nous sommes au XVe siècle, l'époque de Jeanne d'Arc. Qui est Jacques Gélu? C'est un fort anthème. Après de solides études juridiques à Paris, ce natif du Luxembourg devient professeur à la faculté d'Orléans. Il est reçu conseiller au Parlement. Il rentre dans les cabinets ministériels. On dirait aujourd'hui que c'est un jeune énarque, un jeune technocrate. Le dauphin, devant ses qualités intellectuelles, le nomme en 1414 archevêque de Tours. Il a alors un rôle important en politique extérieure, surtout avec les Anglais. Puis en 1447, il devient archevêque d'Embrun. Il vit quelques mois d'ailleurs à Guillestre, en attendant de recevoir ses bulles officielles de nomination. De cet observatoire haut alpin, le roc d'Embrun, il analyse la vie politique. Celle-ci est compliquée. Deux candidats pour le trône de France, le fils de Charles VI, Charles VII, dauphin de France, et le gendre de Charles VI, Henri V, roi d'Angleterre. Par ailleurs, trois papes prétendent à la tiare, l'unité romaine comme l'unité française sont menacées. C'est dans ce sombre contexte, en tant que conseiller des rois, que Gélu va, grâce à son génie, sa clairvoyance, apaiser, clarifier, trouver une solution. D'Embrun, il écrit au roi de France et au roi d'Angleterre pour les exhorter à la paix et leur rappeler que seul le dauphin est le roi légitime. Il part dans cette lettre de l'injustice des prétentions anglaises dénuées de toute légitimité. Du palais d'Embrun, il écrit d'égal à égal avec les plus grands rois d'Europe. Quelle assurance, quelle confiance en son rôle pour la France. Il entend parler de cette pucelle de 16 ans qui prétend conseiller Charles VII. Dans un premier temps, il exhorte le roi à la prudence et lui conseille de ne pas se fier au discours d'une jeune paysanne seule, fragile, et éviter de se rendre ridicule aux étrangers, et de rajouter que les Français étaient connus pour leur facilité à être dupés, non sans rappeler plus tard les propos de Voltaire, ce peuple qui aime être trompé. Et de l'autre côté, il croit en la Providence à qui il pense devoir sa situation. On connaît la suite, la rencontre de Jeanne d'Arc avec le dauphin, etc., qu'elle reconnaît sans ne l'avoir jamais vu. Gélu est alors persuadé du rôle providentiel de la petite bergère de Saint-Rémy. Il rappelle alors que si Dieu agit par le Saint-Esprit, il se sert aussi pour son action providentielle des êtres humains. Il cite Moïse, David, Judas, Maccabée, Judith, Esther. Il prend donc totalement parti pour l'action de Jeanne et écrit à Charles VII, après avoir longuement prié dans la cathédrale d'Embrun au pied du Réal. « Si vous n'obéissez pas à la pucelle, craignez d'être abandonné par le Seigneur. » Hélas, après le triomphe de Jeanne d'Arc au sacre de Reims, les trahisons, la félonie, l'éloignement, elle devient une femme gênante et, malheureusement, trahie. Elle est capturée le 23 mai 1430 par les Anglais. Alors Gélu reprend sa plume dans son bureau sur le roc. Il rappelle au roi qu'il doit aider Jeanne, payer la rançon, la libérer. Puis, il lui reproche de ne pas avoir fait cela. Il lui reproche son ingratitude. Jacques Gélu fait prier Embrun et son diocèse pour la libération de Jeanne. Ces lettres copiées aux archives de l'Isère ont été brûlées à Embrun en 1793. Elle montre que j'ai lu, successeur de Saint-Martin de Tours, de Saint-Marcellin d'Embrun, était un grand mystique qui savait analyser la politique, un homme très complet. On retrouvera plus tard chez Charles de Gaulle une semblable analyse quand il dénonce dans un discours fameux que quand la France s'approche du précipice, une main invisible providentielle l'arrête. Si la voix de l'archevêque d'Embrun, seul, isolé dans ses montagnes, avait été écoutée, la France aurait retrouvé, 25 ans plus tôt, sa liberté. Il y avait chez Gélu à la fois sa formation aristotélicienne, le principe des quatre causes de la scolastique, et une foi totale en la Providence. Son analyse allie le rationnel à la mystique. C'est ainsi que son traité de l'avenue de Jeanne annonce le climat intellectuel de la Renaissance. Après la mort de Jeanne, Jacques Gélu poursuit son travail épiscopal, il visite toutes les paroisses, il vit une partie de l'année à Guillers, dans un château au bord du torrent, le Chagne. Le parc de ce château deviendra un cimetière protestant. Une place devant l'église de Guillestre porte son nom. Il aime Guillestre pour la bonhomie de ses habitants, pour la fraîcheur l'été. Il passe le mois d'août à Saint-Grépin dans une modeste maison aujourd'hui située rue de l'Archevêché, très fraîche, tant il redoute la canicule estivale. Malgré une santé fragile, il se rend à Parme pour rencontrer l'empereur Sigismond, qui lui confie son titre de prince-archevêque du Saint-Empire romain germanique. Il a de bons rapports avec le dauphin et élargit le domaine de l'archevêché qui comprend maintenant les terres du Sauze, Beaufort, Rochebrune, Brézier, Crévoux, Châteauroux, Saint-Clément, La Roche, Ampselat, Aiglier, le château de la ville de Guillestre, Rizoul, la plaine de Fasie, Seillac, Vars, etc. Ainsi, dans la vallée des monts appelés plus tard Barcelonnette, Josier, Faucon, Barcelonnette, Saint-Pons. Donc il a bien agrandi le domaine des princes-archevêques d'Embrun. Il profite de cette conjoncture favorable pour faire confirmer son droit de battre monnaie. Pour cela, une charte l'autorise à exploiter les mines d'argent de Châteauroux et de l'Argentière. La monnaie est battue à Cézanne. Il est l'un des derniers archevêques à avoir sa monnaie car en 1485, le dauphin interdit l'usage d'aucune autre monnaie que la sienne et celle du roi. Gélu, intellectuel moderne, prend le temps d'écrire dans ses retraites estivales guillestrines et de Saint-Grépin les biographies de ses plus illustres prédécesseurs. En 1421, il écrit « Aux mémoires de sa vie » que l'on peut encore consulter dans les archives de l'église de Tours. Bien qu'isolé sur son roc d'Embrun, affaibli par le passage inexorable du temps, les misères de l'âge et la maladie, les rois, les papes lui écrivent pour lui demander conseil. Le pape Eugène IV l'invite à le rejoindre pour préparer le concile de Bâle. Mais il est trop tard. Entouré de l'affection du peuple embruné, il rejoint ses prédécesseurs sous la dalle de la cathédrale.
Merci beaucoup.